Amis auditeurs, auditrices de FM+, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons la chance d'accueillir Anne Amalric. Anne, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Ainsi que Pierre Azémar. Pierre, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Et avec vous deux, comme régulièrement chaque mois, nous allons aborder les nouvelles de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Dans un premier temps, je crois que c'est Pierre qui va nous donner un certain nombre d'informations sur l'ACAT.
Alors, moi, je voulais parler de la situation des prisons et plus particulièrement de la situation de la prison à Perpignan et de la prison de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Plus spécialement, pourquoi ? Parce que donc, ce sont des centres de détention qui sont dans notre région. Et en ce qui concerne la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, il y a eu un article dans la Gazette, là, magnifique, sur un auteur qui a accepté de travailler en immersion avec l'accord des autorités à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones et qui a pu vivre les conditions de vie que sont celles des détenus, mais aussi et peut-être surtout parce qu'on ne le connaît pas assez, celles des personnels qui assurent la sécurité, la surveillance donc des détenus. Il faut savoir déjà que, alors, en ce qui concerne Perpignan, la prison de Perpignan a décidé de faire une grève qu'ils ont appelée stop écrou, puisque à Perpignan, la surpopulation atteint 260%. Et pour ce qui est par exemple des femmes, on a 69 détenus pour 28 places. Sur la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, on a 587 places. C'est la capacité maximale de la prison de Villeneuve. Et on a 993 personnes qui sont détenues à la prison de Villeneuve au 31 octobre, contre 944 un an plus tôt. Donc on voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Je crois que globalement, au niveau national, l'augmentation de la population pénale a atteint 45%, et effectivement, Anne,
80 000 détenus actuellement.
80 000 détenus. Pour revenir à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, on a 107 détenus qui dorment sur des matelas au sol. En octobre, le journal officiel de la République française a publié un avis de la contrôleur général des lieux de privation de liberté, et qui parle des conditions de vie dans de nombreux établissements pénitentiaires qui sont marqués par une profonde indignité. Insalubrité, surpopulation, manque de moyens matériels. Ça a un impact, bien sûr, sur les détenus qui vivent un enfer. Je crois qu'on a un taux de suicide en prison. On parle de...
Tous les deux ou trois jours, il y a un suicide.
Voilà.
Alors que, enfin, en prison, alors que normalement, dans la société habituelle, enfin, c'est pas un record, mais on peut le dire, c'est simplement tous les dix jours que, voilà.
Voilà. Donc, alors ça affecte bien sûr la vie des détenus dans des façons épouvantables, mais aussi le travail du personnel pénitentiaire. Et dans le livre qu'il a publié, Guillaume Poix, dont il est fait état dans l'article de la Gazette, et ce livre magnifique, apparemment, enfin que j'ai pas lu, mais qui s'appelle Perpétuité. Perpétuité, pourquoi ? Parce que c'est ce que disent les gardiens. Les gardiens disent, nous aussi, on a pris perpète quand on travaille là. Dans ce livre, dont Guillaume Poix raconte la vie de détenus, parfois qui sont sujets à des troubles psychiatriques épouvantables, et on le comprend. Ce qui pose, disent-ils, je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais la question de l'alternative à la prison, du sens de la peine d'enfermement, la finalité de l'enfermement, qui malheureusement, on le voit, pour conséquence de créer de la récidive. Or, il y a certainement d'autres pratiques. Je crois que par populisme, on essaye de flatter un petit peu une certaine démagogie. On dit qu'il faut toujours enfermer davantage. On voit qu'on n'arrête pas d'enfermer davantage. Et il faudrait, bien sûr, recourir à des peines alternatives, les prisons ouvertes, le port du bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux. peut-être dans une certaine mesure aussi la justice restaurative qui, elle, est dans une autre type de démarche qui ne se substitue pas à la peine, mais qui peut aussi représenter une façon de rendre plus vivable la prison en France.
Et puis ça veut dire aussi, vous l'avez souligné Pierre, qu'il y a un travail de formation, de recrutement et d'accompagnement des surveillants qui du coup sont amenés à travailler dans des conditions inhumaines. Les détenus vivent dans des conditions inhumaines, les surveillants travaillent dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas digne d'un pays dit de droit.
Complètement. Oui, je crois que là, il y a une urgence qui permet un peu de rebondir sur la réponse que les pouvoirs publics ont tendance à apporter aux préoccupations des citoyens et des électeurs, que pour des raisons purement électoralistes, on brosse dans le sens du poil et au lieu d'avoir une parole courageuse sur la question des quartiers de haute sécurité, sur la question des activités dites récréatives en prison ou de l'isolement, on n'a qu'une réponse, c'est de dire il faut enfermer davantage et on s'écarte, là on met la poussière sous le tapis et on fait l'économie de toute la réflexion sur le sens de l'enfermement et de la peine.
Et il faut réfléchir aussi sur les sorties de prison, parce que les récidives, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais parce que les conditions de détention étaient tellement difficiles que sortant de prison, il recommence souvent.
Oui, complètement.
Hein. Donc il faut commencer à travailler la sortie de prison à l'intérieur même de la prison. Ça fait partie de la question des prisons aussi, ça.
Vous vouliez ensuite nous parler, Pierre, de la libération d'un pasteur, je crois.
Oui, il s'agit du pasteur Raymond Co. Alors, malheureusement, il n'a pas été libéré. Il est toujours porté disparu. Il a disparu des radars en 2017. Et l'ACAT avait appelé à prier pour lui au cours de la nuit des veilleurs du 26 juin. Il faisait partie des victimes pour lesquelles on se mobilisait. Et ça... Il ne faut pas dire sa veuve, puisqu'il n'a pas été déclaré mort, mais sa famille a obtenu gain de cause, puisqu'elle a obtenu judiciairement des autorités de Malaisie la reconnaissance que l'État n'avait pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir le retrouver, qu'il était quelque part responsable de sa disparition, et elle a obtenu donc une astreinte au paiement de la somme de 2000 ou 3000 euros par jour, ce qui a actuellement plus de 4 millions d'euros qui sont dus à la famille. Comme dit la famille, ça ne lui ramènera pas son mari. Donc le pasteur Raymond Co, qui était un pasteur très très impliqué dans les mouvements sociaux en Malaisie, sa disparition a probablement été téléguidée, télécommandée par des mouvements proches du pouvoir, ce qui semble avoir été reconnu. Et grâce à la mobilisation des adhérents, des gens qui ont participé à la mobilisation, on a pu obtenir cette victoire, qui encore une fois ne le ramène pas, mais qui conduit l'État malaisien à mettre tout en œuvre pour essayer d'enquêter sur sa disparition et sur sa situation actuelle. Voilà, je voulais aussi évoquer dans un tout autre endroit du globe, c'est en Tunisie. Le président tunisien a décidé, après s'être attaqué à deux autres organisations de défense des droits de l'homme, qui étaient déjà l'Association tunisienne des femmes démocrates et d'une part et d'autre part le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Il s'est attaqué à l'Organisation mondiale contre la torture, dont le siège est à Genève, et qui vient en aide aux prisonniers ou militants des droits humains qui seraient emprisonnés. Et le président de la Tunisie a décidé de suspendre les activités de cette organisation mondiale contre la torture au motif qu'elle recevrait des fonds de l'étranger et que donc elle serait, comme d'autres associations, des instruments de l'étranger s'immisçant dans la vie politique de la Tunisie. Voilà, donc c'est un premier point, ça n'est que pour un mois, mais c'est une dérive de plus en plus inquiétante, ce qui se passe en Tunisie. Ce qui nous inquiète particulièrement et dont on ne parle pas aussi, c'est ce qui se passe Actuellement, en Israël, nous venons d'apprendre que la Knesset avait autorisé l'examen d'un projet de loi qui vise à rétablir la peine de mort en Israël. Peine de mort qui s'appliquerait à tout Palestinien qui aurait assassiné un Israélien. Ce qui nous effraie, c'est d'une part qu'il s'agit de la peine de mort, donc nous sommes foncièrement opposés à ça. Et puis aussi l'injustice, parce qu'on ne parle pas du tout de peine de mort appliquée à un Israélien qui aurait assassiné un Palestinien. Et pour terminer aussi sur ce qui se passe dans cette zone du monde qui nous est chère à nous, chrétiens, c'est qu'on a appris également que la torture était pratiquée de manière courante et systématique dans les prisons israéliennes à l'encontre des détenus palestiniens, détenus dont, il faut le rappeler, sont très souvent arrêtés, détenus de manière arbitraire dans les prisons, jugés par des tribunaux d'exception, des tribunaux militaires, hein, notamment dans les... Je parle en particulier de ce qui se passe en Cisjordanie, et qu'ils sont mis au secret sans même que leur charge ou le chef d'accusation leur soit communiqué, ni à eux, ni à leurs avocats. Et les cas de torture, de mutilation, y compris de mutilation génitale, de mauvais traitements, d'humiliations systématiques, de privation de nourriture, sont rapportés de manière complètement documentée par les organisations israéliennes elles-mêmes. Voilà, donc un grand souci, un grand motif d'inquiétude, d'autant que nous avons une haute opinion de l'État d'Israël, qui a toujours été un modèle pour nous, un petit peu, hein, les chrétiens, qui incarnait une possibilité de trouver une possibilité de vivre en paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui malheureusement est en proie à une dérive particulièrement préoccupante. Pour le moins.
Préoccupante et gravissime. Voilà. Donc vous avez raison, la CAT a raison d'avoir ce rôle de veilleur à différents endroits du globe. Vous vouliez aussi, Pierre, nous donner une information par rapport à ce qui va se passer à Béziers dans le cadre du festival Migrants Scène entre la CIMAD, la CAT. Et je rappelle à nos auditeurs que le 5 novembre, vous avez enregistré, vous avez vu, écouté peut-être une émission avec la CIMAD qui a organisé ce festival qui va jusqu'au 14 décembre. Et Pierre va nous informer de quelque chose qui va se passer à Béziers dans ce cadre-là.
Voilà, en fait, la CAT est associée à l'un des événements de ce festival. Il s'agit en l'occurrence de la projection le 28 novembre à 20h, donc dans les locaux de la CIMAD, 14 rue de la Rotonde à Béziers, du film qui a fait beaucoup parler de lui et qui relate l'histoire d'Izzeldin Abou Elesh, ce médecin de Gaza dont la vie a basculé en 2009 lorsque toute sa famille, ou tout au moins une grande partie de sa famille, deux de ses filles et une nièce, ont été tués lors d'une explosion déclenchée par un tank israélien qui patrouillait dans les rues de Gaza City. La CAT interviendra pour soutenir ce film, et puis pour parler du voyage qui avait été organisé en 2019 par le groupe Kairos, et au cours duquel on avait pu voir les conditions de vie au quotidien des Palestiniens en Cisjordanie, plus particulièrement à Bethléem, à Ramallah, Hébron, Jéricho. Voilà, dans toutes ces villes de la Cisjordanie où les conditions de vie des Palestiniens sont particulièrement compliquées du fait des checkpoints, du fait de la colonisation notamment.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. Je vous invite à une pause musicale et nous retrouvons nos invités ensuite.
Oh, when the saints, when the saints go marching in, go marching in. Well, when the saints go marching in. Good Lord, I want to be in that number. Well, when the saints go marching in,
go marching in.
Well, oh,
when the saints
go marching in,
go marching in.
When the saints go marching in, good Lord, I want to be in that number.
and number when the saints go marching in.
Go marching in.
Well, I have a father and a mother who has gone a long time before. I promised the Lord I will meet her when the saints go marching in.
Go marching in.
Well, when the saints,
when the saints,
I go marching in,
I go marching in.
Well, when the saints
go marching in,
well, Lord, I want to be in the number when the saints
go marching in, go marching in.
Well, I have saints go marching in,
go well, marching in. When the saints,
when the saints,
they go marching in,
go marching in.
Well, when the saints
go marching in.
Don't you know I wanna be, wanna be, wanna be, wanna be in the number. Well, when the
saints go marching in, go marching in. Yes, my Lord. 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 Saints go marching in, go marching in.
Well, when the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in.
Well, when the saints
go marching in,
go marching in. Good Lord, I want to be in that old number.
Saints go marching in, go marching in. When the saints
go marching in,
go marching in.
Well, when the saints
go marching in,
go marching in. Good Lord, I want to be in that
party number.
When the
saints go marching,
go marching in.
Well, when the
saints go marching in.
Nous retrouvons nos invités Anne Amalric et Pierre Azéma pour continuer notre parcours mensuel sur les nouvelles de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et avec vous, Anne, nous allons parler du rassemblement régional dont le thème sur l'état de droit, liberté et sécurité.
Oui, alors tout à l'heure, Pierre évoquait la situation difficile des surveillants des prisons de Villeneuve-les-Maguelones et des détenus aussi, et puis les conséquences que ça avait sur les personnes elles-mêmes. Et donc, ça me permet de rebondir justement sur le rassemblement régional de la CAF qui se tiendra les 22 et 23 novembre prochain à Carnon. Je redirai après l'adresse si vous êtes intéressé, parce que ce jour-là, il y aura l'ancien président de la CAD, Yves Roland, nous parlera de l'état de droit et des atteintes. On parle de l'état de droit en France et des atteintes à cet état de droit sous l'angle des libertés et de la sécurité et sous l'angle aussi du droit d'asile. Et je pense que ça sera intéressant, c'est audible par tout le monde. Et je pense que ce sont des thèmes qui intéressent tout le monde parce qu'on entend des fois des choses à la télévision qui sont, à mon avis, assez partisanes. Il faut pouvoir entendre les deux parties. Hein. Donc je rappelle que c'est donc l'intervention de Yves Roland, ça sera le samedi 22 à 15h à Carnon, à la maison familiale Firmin Cabanis. Je ne sais pas si vous situez.
Voilà. Alors, c'est 150 avenue Gracion-Sibran à Carnon. Enfin, sur le GPS, il faut peut-être mettre Moggio. Mais voilà, je rappelle, 150 avenue Gracion-Sibran. Sibran avec un C. Et la conférence de Yves Roland aura lieu, je crois, à partir de 15h.
Voilà. Et vous pouvez venir, l'entrée est libre. Et vous pourrez vous associer donc à ce travail de la CAT, parce que pour la CAT, c'est un travail habituel de surveiller justement que cet état de droit en France ne soit pas menacé. Parce que, justement, on évoquera l'entrave à la liberté de manifester, s'il y a, le recours abusif à la force par les agents de l'État, et là c'est un problème très grave, justement c'est à l'actualité, enfin je veux dire, ça revient, c'est de façon récurrente dans l'actualité, mais peut-être on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il faut savoir que justement le recours à la force par les forces de sécurité, elle doit répondre à quatre principes. Le principe de la légitimité, il doit y avoir un fondement juridique au recours à la force. Pas comme ça poursuivre des gens, voilà, il faut qu'il y ait un objectif légitime, et notamment la force utilisée à des fins punitives et de domination et d'humiliation, elle ne doit pas avoir lieu. Je pense qu'on doit le savoir, ça. Donc le principe de la légitimité, le principe de la nécessité, il faut avoir recours à la force s'il n'y a pas d'autres moyens. Et ça, il faut aussi le savoir. On parlait tout à l'heure d'affaires anciennes qui se sont tenues, je crois, avant mai 68, sur le Larzac. Et on parlait d'actions non violentes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, on est passé à autre chose et la violence est plus monnaie courante des deux côtés, hein, des deux côtés, du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre, et donc il faut éviter ça, et de la part des forces de l'ordre, et j'y reviendrai après, justement il y a un principe de précaution, c'est-à-dire qu'on a recours à la force que si on ne peut pas faire autrement. Et il faudrait, je pense que quand même la police est formée à ça, mais il faudrait que la police soit formée pour avoir un plan, quand elle est en face à une manifestation, qu'elle ait un plan pour répliquer à cette manifestation et qu'il ne soit pas obligatoirement l'envoi de bombes lacrymogènes, voilà, et de recours à des moyens qui sont très très dangereux. La presse quand même, ça fait l'écho des résultats négatifs de cette utilisation par la police de moyens. Hier on parlait avec Pierre de
Oui, effectivement, il y a eu des révélations dans Mediapart, je crois que cette semaine, grâce à l'exploitation des caméras piétons dont sont équipées les forces de l'ordre, et plus particulièrement dans les événements de Sainte-Soline, on a pu voir que des ordres avaient été donnés pour utiliser les fameux lanceurs de balles de défense de manière tendue vers les cibles, contrairement à la doctrine d'emploi. Ce qui génère nécessairement des traumatismes, voire des risques de mort. Et à ce sujet, l'ACAT fait partie des associations qui militent pour l'utilisation de ces caméras piétons, pour l'identification des policiers. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme nous a, nous, souvent condamnés pour la multiplication de ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Et donc l'obligation qui pourrait être faite aux forces de l'ordre de délivrer un récépissé pour éviter les contrôles multiples.
Nous voyons tout à l'heure, avant la pause, nous parlions de la difficulté du métier de surveillant en maison d'arrêt ou en prison. Là, nous abordons la difficulté du métier de policier face à toutes tous les risques, hein, contrôlés ou incontrôlés, qui arrivent. Et donc, je rappelle le thème de ce rassemblement régional le week-end, donc 22 et 23 novembre à Carnon, avec cette conférence à 15h, à laquelle vous êtes les bienvenus. État de droit, 2 points, liberté, sécurité, droit d'asile. Vous pourrez ainsi aborder toutes les questions dont vous avez envie d'avoir des précisions.
Oui, à propos du droit d'asile, il sera fait état d'une loi qui, dernièrement, a prolongé la durée de rétention administrative jusqu'à 210 jours. Hein. Et puis aussi, la rétention sera fonction du degré de dangerosité de la personne qui demande le droit d'asile. Alors ça, c'est encore aussi laissé à l'appréciation, et puis ça peut entraîner des dérives. Donc ça sera aussi un deuxième volet de l'entretien de Yves Roland. Voilà.
À Carnon.
À Carnon.
Le samedi 22 novembre à 15h. Vous vouliez nous dire le nom du nouveau président de la CAT, je crois, Anne.
Non, je voulais terminer surtout par des propos du président de la CAT, qui est Luc Bélière. C'est le nouveau président, je le crois protestant.
Il est
protestant. Il est. Voilà, j'aimerais beaucoup lire parce que je l'ai lu dans notre journal Humain et je pense qu'on peut le partager. Il dit ceci, j'ouvre les parenthèses, Sainte-Marie, elle dit comme ça. Penser la paix, c'est déconstruire les discours de haine, c'est restaurer la complexité là où on impose le binaire. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Le bien, le mal. Hein. C'est réhumaniser ceux que l'on stigmatise, relever les humiliés. Face à la montée des périls, notre devoir, c'est de rester les gardiens vigilants de cette humanité fragile, de penser les plaies avant qu'elles ne deviennent guerre. Voilà, ça m'a
parlé. Merci beaucoup, Anne. Vous vouliez que nous parler aujourd'hui de l'appel du mois.
Oui, alors l'appel du mois, ce mois-ci, concerne une détenue condamnée à mort, pakistanaise. Elle a été accusée, son jugement est passé le 18 septembre 2004. Elle a été condamnée à mort et à une amende de 300 000 roupies pakistanaises. Ça fait 950 euros. Cette condamnation, elle fait suite à une plainte d'un musulman qui a affirmé qu'elle avait partagé sur WhatsApp des propos blasphématoires. Alors, il faut savoir que au Pakistan, je crois que c'est le 8e pays qui est pointé, le 8e ou le 7e, qui est pointé par l'index mondial des persécutions des chrétiens. Voilà, donc il faut savoir ça. Alors, donc, elle est détenue actuellement parce que la loi pakistanaise prévoit que, avant la condamnation à mort, le détenu doit faire 7 ans d'emprisonnement. Est-ce que j'ai le temps de dire que on peut écrire donc pour s'opposer à cette condamnation à mort et à la condamnation tout court de cette personne qui s'appelle Saguta Kiran, qui est chrétienne pakistanaise. On peut donc envoyer un mail ou une lettre au Premier ministre de la République islamique du Pakistan pour toute information. Si j'ai pas trop le temps d'en parler, vous pouvez vous référer au site A4 France en minuscules et en attaché a4france.fr. Alors, on a eu l'occasion de dire, je crois, qu'il y a un prisonnier pour lequel on est intervenu qui a été libéré. Donc, notre action n'est pas inutile.
Voilà. Merci beaucoup, Anne et Pierre. Je rappelle le livre de Guillaume Poix, Perpétuité, dont l'article est dans la Gazette du 6 au 12 novembre. Le samedi 22 novembre à 15h à Carnon, la conférence avec Yves Roland. Et le 28 novembre à Béziers, dans le cadre de Festival Migrants Scène, un film. Je remercie Léonie qui est à la régie. Et je rappelle que nous nous retrouvons vendredi 19 décembre pour l'émission mensuelle.
Merci à vous. Anne-Marie.
Merci Anne-Marie.